pourquoi le tribunal des conflits a-t-il été créé ?
Le tribunal des conflits a connu en réalité une double naissance, puisqu'il a d'abord été créé une première fois en 1848-1849 par la Constitution du 4 novembre 1848, puis il a été supprimé très peu de temps après, d'ailleurs en 1852, parce qu'on a considéré qu'il n'avait pas de raison d'être particulière ou ça ne donnait pas tout à fait satisfaction. Mais on s'est aperçu qu'il fallait malgré tout le créer, d'où une deuxième naissance. Il a été créé à nouveau par la loi du 24 mai 1872. Cette loi portant réorganisation du Conseil d'État, qui prévoyait donc la constitution de ce tribunal des conflits. Mais sa création tire en réalité sa raison d'être de la loi des 16 et 24 août 1790 qui instaurait la séparation des autorités administratives et judiciaires et qui faisait défense, et je cite, aux juges de troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. À cette loi d'ailleurs s'ajoute un décret de Fructidor en 3 selon lequel, je cite, « défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes administratifs de quelques espèces qu'ils soient ». Donc on voit bien que ces textes instaurent une séparation très claire entre les autorités administratives et les autorités judiciaires. D'ailleurs, c'est l'héritage des difficultés qui étaient apparues entre le pouvoir royal et les parlements, donc la volonté de la Révolution de prévenir tout empiètement par les autorités judiciaires sur ce qui constituait le pouvoir administratif. Depuis cette date, c'est-à-dire 1790, la répartition des compétences entre l'administration et le juge judiciaire était opéré par le Conseil d'État lui-même, selon d'ailleurs le régime que l'on appelle de la justice retenue, c'est-à-dire que les décisions du Conseil d'État n'étaient pas souveraines, mais devaient recevoir l'approbation du chef de l'État. Donc, jusqu'en 1872, ce système a été mis en place, mais en 1872, donc le Conseil d'État s'est vu reconnaître la possibilité de statuer souverainement, c'est-à-dire il n'y avait plus l'approbation du chef de l'État, et selon le système de la justice déléguée et non plus la justice retenue. Mais concomitamment, le Conseil d'État s'est vu retirer la possibilité de régler les conflits entre le juge judiciaire et le juge administratif, ne pouvant pas être à la fois juge et partie, bien entendu. D'où la création du tribunal des conflits. Sa mission, donc, consiste à régler les conflits de compétences qui peuvent apparaître entre l'ordre administratif et l'ordre judiciaire.
Et en quoi le tribunal des conflits a-t-il participé à l'émergence, à l'élaboration du droit administratif ?
Le tribunal des conflits a participé à cette émergence et à cette élaboration du droit administratif, essentiellement d'ailleurs dans la première période de son fonctionnement, parce que il y avait statistiquement un nombre important de conflits positifs, c'est-à-dire d'hypothèses où le pouvoir administratif contestait la compétence du juge judiciaire. Donc statistiquement, il y a eu dès l'origine des conflits en nombre important qui ont permis donc de bien délimiter la répartition de compétences et du même coup donc d'asseoir le droit administratif. Il s'agissait donc, dans un premier temps, de protéger finalement l'administration contre les empiétements du juge judiciaire, mais du même coup, de mieux cerner le domaine d'application du droit administratif. Alors, je vais citer quelques arrêts extrêmement marquants, qui figurent d'ailleurs parmi les grands arrêts du tribunal des conflits. C'est d'abord l'arrêt Blanco du 8 février 1873 qui statuait sur un problème de responsabilité de l'État. C'était une jeune fillette qui avait été blessée par un wagonnet poussé par des salariés d'une manufacture de tabac. Donc le père engageait la responsabilité de l'État. Et cet arrêt constitue le fondement du régime de la responsabilité administrative de la puissance publique. C'est vraiment un arrêt fondateur du régime de responsabilité de l'État. On peut citer également l'arrêt Pelletier du 30 juillet 1873 en matière de saisie d'un journal. Cet arrêt opère la distinction entre ce que l'on appelle la faute de service et la faute personnelle des agents publics, c'est-à-dire la faute de service qui est donc imputable au service, comme son nom l'indique, à distinguer donc d'une faute individuelle, personnelle, qui peut être commise par l'agent de l'administration. On peut citer également Société commerciale de l'Ouest africain du 22 janvier 1921 qui instaure une distinction très importante entre le service public administratif qui relève toujours de l'ordre administratif et puis le service public industriel et commercial, c'est-à-dire un service public qui a une activité plus économique, si je puis dire, et qui en général relève de l'autorité judiciaire et de la compétence du juge judiciaire. On pourrait citer encore plus récemment l'arrêt FIMIEF du 28 mars 1955 qui a précisé la définition des travaux publics. Évidemment, on peut penser aussi à celui du 12 mai 1997, complété par l'arrêt Boussadard du 23 octobre 2003 qui précise la notion de voie de fait. C'est-à-dire c'est un acte commis par l'administration, mais qui n'est pas susceptible de se rattacher à un pouvoir ou à une prérogative de la dite administration. C'est une hypothèse où l'acte de l'administration relève du juge judiciaire parce que, précisément, ça n'est plus un acte véritablement qualifiable d'acte relevant de l'administration. Une dernière décision importante du 4 mai 2009, préfet de région contre les éditions Gistreau, clarifie le partage de compétences entre l'ordre administratif et judiciaire s'agissant d'activités de production, de distribution effectuées par des personnes de droit public et donc qui continuent de relever en matière de pratique anticoncurrentielle de l'ordre judiciaire. Il y avait là une précision importante à apporter. Quelques décisions notables qui ont structuré en quelque sorte le droit administratif ou clarifié le domaine d'application du droit administratif. Nous nous efforçons d'avoir des décisions véritablement pédagogiques, c'est-à-dire précises, qui permettent aux justiciables de bien s'y reconnaître dans cette répartition qui est parfois délicate, hein, évidemment. Et donc on s'efforce de clarifier les choses à cet égard, lorsque c'est possible, en créant des blocs de compétences, c'est-à-dire vraiment attribuer à tel ordre de juridiction la compétence pour juger de tous les litiges qui peuvent apparaître, ou bien, si cela n'est pas possible, d'apporter une grande clarté dans les règles de répartition de compétences.
Et quelle est l'évolution des saisines depuis la création du tribunal ?
Depuis les 10 dernières années, il faut observer une stabilité réelle des saisines du tribunal des conflits qui juge environ entre 50 à 60 affaires par an à raison d'une séance mensuelle. Et on s'aperçoit que statistiquement, ce sont les conflits négatifs qui alimentent en quelque sorte l'activité du tribunal des conflits, conflits négatifs, c'est-à-dire des hypothèses où aucun des deux ordres de juridiction ne se reconnaît compétent. En tout cas, stabilité dans la saisine, et puis l'effort de clarification que nous avons fait, je pense, est de nature à en tout cas prévenir tout flux supplémentaire d'activité. Étant ajouté que le législateur semble s'efforcer de préciser parfois les règles de compétence lorsque, justement, il y a des risques de conflit. Ce qu'il faut quand même peut-être observer, c'est que l'intervention grandissante des collectivités publiques ou des personnes de droit public dans le monde économique est peut-être de nature à générer quelques problèmes de répartition de compétences. On commence à le percevoir un petit peu. Et là, il y a certainement un champ qui peut s'ouvrir progressivement, avec aussi, bien sûr, l'incidence éventuelle du droit communautaire qui peut éventuellement également amener à des problèmes de répartition.